Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'art en une semaine. Une semaine un peu chargée parce que j'ai des déplacements dans plusieurs musées et donc je n'ai pas pu faire cette semaine d'interview de la Tribune de l'Art, d'invité de la Tribune de l'Art, mais néanmoins je tiens absolument à faire ce rendez-vous hebdomadaire, L'art en une semaine. Alors vous avez sans doute lu la nouvelle, nous en avions parlé dans une précédente émission, le CMN se voit privé du Mont-Saint-Michel. Une mesure clientéliste du Premier ministre, une mesure néfaste pour le patrimoine, une de plus du président de la République. Il y a vraiment un problème avec cette équipe gouvernementale, avec ce président. Je pense qu'il faudra à terme que l'État se repose la question de savoir comment il peut entretenir le patrimoine. Alors, je vous sais que j'ai beaucoup de réponses à ces questions et que manifestement, en tout cas, ça n'intéresse pour le moment pas beaucoup les gouvernants. Mais il faut absolument réfléchir à comment, pour les monuments les plus importants appartenant à l'État, on peut au moins les entretenir. Et le CMN est une réponse à cela. Malheureusement, on constate qu'on ne pense qu'à le démanteler finalement. Parce que qui va payer pour les petits châteaux qu'il entretient si le CMN, s'il est privé de CMN? Alors on nous dit bien sûr, il y aura toujours de l'argent de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça n'aura qu'un temps. Et à terme, le Mont-Saint-Michel sera totalement séparé du CMN. Donc voilà une question, un problème qu'il va falloir résoudre dans les années à venir. En tout cas, il est clair que ce n'est pas Emmanuel Macron qui le fera. Vous avez peut-être suivi Christophe Leribaud, nouveau président du Louvre, a été auditionné par le Sénat, la commission culturelle du Sénat. Donc j'ai regardé attentivement cette audition. Il est, au moment quasiment où je vous parle, auditionné aussi par l'Assemblée nationale. Je pense qu'il dira à peu près ce qu'il a dit au Sénat, mais de toute façon, je ferai un article sur ces deux auditions. Alors, on voit que ça change complètement par rapport à Laurence Descartes. C'est quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui prend soin des gens et qui, contrairement à Laurence Descartes, dit bonjour. Ne serait-ce que cela, c'est déjà important. Ça paraît ridicule, évidemment, mais un président d'établissement public qui regarde ses pieds quand il croise des personnes qui travaillent avec lui, c'est quand même un problème. Bon, évidemment, Laurence Descartes avait d'autres défauts, et Christophe Leribaud est presque l'inverse de Laurence Descartes, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, sur beaucoup, bien des points, la gouvernance du Louvre sera meilleure. Mais il reste un point, et ce n'est pas parce que je pense le plus grand bien de Christophe Leribaud que je n'en parlerai pas, il reste bien sûr ce projet Grande Colonnade, que Emmanuel Macron lui a imposé, hein, ne nous cachons pas les choses. Il est évident que ce projet, c'était soit la présidence du Louvre avec ce projet, soit pas de présidence du Louvre. Donc, pour le moment, il l'a dit, d'ailleurs de manière un petit peu, c'est un peu décevant quand même, il l'a dit devant le Sénat, en ayant l'air de dire que finalement c'est un projet qui était nécessaire pour le Louvre. Je continue à penser le contraire, et je pense que je continuerai à l'écrire. Il a dit en revanche, c'était assez amusant, qu'il lui fallait trouver 300 millions en 6 mois, et qu'il n'était pas sûr d'y arriver. Je pense effectivement qu'il n'y arrivera pas, puisque ça fait au moins 2 ans que le Louvre, et que sans doute, aidé par le ministère de la Culture, ils essayent de trouver de l'argent, et ils n'en trouvent pas, et j'espère qu'ils n'en trouveront pas. Parce qu'il est urgent de redimensionner ce projet, de le transformer en un projet qui permettra aux visiteurs d'entrer effectivement par la colonnade, d'entrer par d'autres voies au Louvre que l'entrée unique actuelle de la pyramide. Il faudra effectivement réfléchir où mettre la Joconde, et c'est une vraie réflexion, je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Mais en tout cas, ça ne sera pas avec un projet à 660 millions d'euros. Alors, il semble que sur 660 millions d'euros, une partie serait affectée à quelque chose d'indispensable, qui serait la climatisation, surtout par ces chaleurs, la climatisation de la cour Napoléon, de la cour carrée, pardon. Peut-être, mais ça n'est pas quelque chose que j'ai pu constater dans les documents de la Cour des comptes, par exemple. Mais c'est un point que je vais investiguer un peu plus profondément. Peut-être que finalement, ce projet Grande Colonnade, ce n'est pas 660 millions d'euros, c'est peut-être que 300 millions d'euros. Mais ne serait-ce que 300 millions d'euros, c'est 300 millions d'euros de trop pour défigurer cette entrée du Louvre, pour faire des salles inutiles. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc voilà, on espère encore, on espère toujours que, une fois Emmanuel Macron parti, ce projet mourra de lui-même comme il n'aurait pas dû naître déjà. Remarquons que Christophe Leribaud était candidat il y a 4 ans au poste de Laurence Descartes, mais d'après mes informations, le fait qu'on voulait une femme, hein, c'est pas la compétence des gens qui compte, c'est manifestement le sexe, on voulait une femme, donc on a nommé Laurence Descartes. Bah, si Christophe Leribaud avait été nommé il y a 4 ans, d'abord, il n'aurait pas, probablement pas, en tout cas je ne pense pas, annulé ou reporté le schéma directeur de sécurité. Peut-être que le vol des bijoux n'aurait pas pu avoir lieu. On ne peut pas refaire l'histoire, mais c'est une possibilité très forte. Et Christophe Leribaud n'aurait jamais eu l'idée de cette entrée à 600 millions d'euros ou 350, je ne sais pas, millions d'euros. Il n'aurait pas eu cette idée-là. Il ne l'aurait pas vendue au président de la République. Et on n'aurait pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, on a perdu 4 ans. Qui sont dramatiques. Donc c'est une nouvelle fois une mauvaise nomination du président de la République. Mais bon, encore une fois, on ne va pas le refaire maintenant. Il est définitivement fâché avec les musées et le patrimoine. La Cour des comptes, dont nous parlions d'ailleurs à propos du Louvre, a fait un rapport, publié un rapport il y a quelques jours sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la Culture. Ce rapport assez court dit des choses réelles, mais nous paraît un peu court. En effet, il dit ce que beaucoup ont dit déjà, que je crois que Christophe Leribaud l'a dit dans son audition, Jérémy Patrier-Lelitus, député Horizon, l'a également dit, on va se heurter au ministère de la Culture, au Louvre notamment, mais au ministère de la Culture en général, à un mur d'investissement. C'est-à-dire quoi un mur d'investissement? La Cour des comptes aussi l'a dit, dans ce rapport-là, et dans le rapport sur le Louvre. Un mur d'investissement, ça veut dire des investissements qu'on n'arrivera pas à faire parce qu'ils sont trop importants. Si les investissements sont trop importants, il faut se poser la question, premièrement, de leur pertinence, et deuxièmement, de la manière dont on pourrait avoir plus d'argent, et de leur priorisation. Il est clair que là, la Cour des comptes le constate, il n'y a pas de priorisation, il y a des projets qui ne sont pas forcément nécessaires, et dans bien des cas, il n'y a pas de financement, comme c'est le cas pour le Louvre. Qu'on puisse lancer un projet tel que le Louvre sans financement est quelque chose qui est totalement ahurissant, il faut le dire. Notons toutefois que dans ce rapport des grands chantiers culturels, il n'y a pas que le patrimoine. On nous parle de la cité des sciences, on nous parle de l'Opéra Bastille, on nous parle de la BNF. Bien sûr, la BNF est un établissement patrimonial, mais ces nouveaux bâtiments, hein, l'Opéra Bastille, la cité des sciences et la BNF, pour ne prendre que, on constate qu'ils sont mal faits, on peut les aimer ou pas, mais en tout cas qu'ils ont été construits de manière pas forcément excellentes, qui n'ont pas été entretenues, et qu'on se trouve maintenant à vouloir les restaurer à grands frais. On pourrait parler aussi du Centre Pompidou. Mais ces bâtiments modernes, même si peut-être à terme ils le seront, ne sont pour le moment pas du patrimoine, ils ne sont pas classés monuments historiques, ils ne sont pas inscrits. Donc, s'il y a de l'argent à mettre ici, ça n'est pas à la mission patrimoine de le mettre. Donc, il faut, je crois, distinguer les investissements que doit faire le ministère de la Culture des investissements que doit faire la partie patrimoine du ministère de la Culture. Et ça n'est pas vraiment fait dans ce rapport de la Cour des comptes. Alors, les recommandations de la Cour des comptes, elles sont de bon sens, comme je le disais, mais elles n'apportent pas grand-chose. En gros, elles sont de trois ordres. Il faudrait, avant de faire de lancer un chantier, avoir un plan de financement. Ça me paraît le béaba. Et on s'aperçoit évidemment que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je me réfère au Louvre. Il faut également faire un audit régulier de la mise en œuvre des schémas directeurs qui sont décidés. Oui, quand on décide un projet pour un grand bâtiment, pour une grande institution, il est à peu près normal de les suivre. Ça paraît, encore une fois, le béaba. Mais là encore, ça n'est pas fait et donc la Cour des comptes recommande de le faire. On peut être d'accord avec elle. Enfin, elle propose ce que d'autres effectivement ont déjà proposé, qu'il y ait un plan pluriannuel d'investissement qui donc prévoit sur le long terme, parce que là actuellement, les budgets augmentent, les budgets baissent, enfin, personne ne s'y retrouve. Donc effectivement, il faut un budget, un plan pluriannuel d'investissement. Ce que je regrette en revanche, c'est que la Cour des comptes ne s'attaque pas du tout à la question du financement, alors que c'est au cœur des problématiques. Alors je veux revenir une fois de plus, mais j'en parlerai jusqu'à ce que ça aboutisse, des deux solutions qui sont, à mon sens, nécessaires pour trouver de l'argent pour le patrimoine et pour les musées, d'ailleurs, parce que je parlais du patrimoine, mais les musées font évidemment partie du patrimoine. Ce sont deux mesures qui, globalement, peuvent rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, entre, disons, 800 millions, presque un milliard par an. C'est de l'argent qui serait hors coût budgétaire pour l'État. C'est quand même très important, c'est-à-dire que l'État n'aura pas à dépenser plus. Alors, ce sont des ressources qui, évidemment, proviendraient de taxes. Mais alors on nous dit, il faut vous taxer à nouveau. Moi, je suis totalement opposé à l'imposition, opposé aux impositions énormes qu'on subit tous. Moi, en tant qu'entrepreneur, la tribune de l'art, je paye beaucoup d'impôts, trop d'impôts par rapport à l'utilité, à mon sens, de l'État. En tout cas, à ce qu'il fait. Mais là, on parle de micro-taxes qui rapportent beaucoup d'argent et qui pourraient être affectées directement ou Alors on nous dit que si on ne peut pas affecter directement un impôt à quelque chose, on trouve toujours les techniques, ça c'est l'État est très fort pour cela. Donc ces deux taxes, micro-taxes, c'est une taxe sur les nuitées, sur la taxe de séjour, une augmentation de la taxe de séjour, qui est plutôt faible en France. Alors Marie-Vonne de Saint-Pulgent, j'en avais parlé avec elle quand elle était venue dans mon émission, a trouvé un système, il existe déjà le système qui permettrait de faire cela, très simplement, donc d'augmenter de 50 centimes ou d'un euro. Alors peut-être qu'on... Pour les plus pauvres, par exemple, pour les campings, on pourrait peut-être les exonérer. Enfin, c'est possible, ça, évidemment, bien sûr, je ne sais pas. Mais pour un palace, ça coûterait 2 ou 3 euros par nuitée, ce qui est rien. Et pour un hôtel normal, ça serait peut-être 1 euro par nuitée. C'est-à-dire 7 euros par semaine pour entretenir le patrimoine que les touristes et les Français qui se déplacent en France, viennent voir. Ça ne paraît pas excessif. Deuxième chose, deuxième proposition. 1,8% de la mise des Françaises des Jeux. J'ai déjà dit que 1,8% de la mise des Françaises des Jeux, c'était déjà pour le sport et que personne des joueurs, aucun joueur ne s'est aperçu de cela. Il y a toujours d'énormes gros lots et ça ne change rien. Donc ces 1,8% seraient pris non pas sur la part qui revient à l'État, puisque l'État est pauvre, paraît-il. C'est toujours encore une fois une question d'orientation, hein, parce que le ministère de la Culture n'a pas l'argent pour faire les restaurations et pour donner cet argent au patrimoine, alors qu'à côté de cela, il y a des dépenses énormes qui sont faites, mais ça, personne ne pense non plus à diminuer certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires. Donc, 1,8%, ça serait gagné, donc pas sur l'État, pas sur la Française des Jeux, qui est une société maintenant privée, même si on peut le regretter, et qui ne voudra pas voir son bénéfice diminuer, mais sur ce qui est redistribué aux joueurs. C'est à peu près 70%, je ne sais plus exactement combien, mais c'est de cet ordre-là qui sont redistribués aux joueurs. Ça donnerait toujours des gros lots, toujours beaucoup de redistribution, un tout petit peu moins simplement, et ce petit peu moins, qui est beaucoup, irait au patrimoine et au musée. Voilà. Je sais bien que je vous ennuie avec cela régulièrement, mais je le répéterai encore et toujours jusqu'à ce qu'on obtienne cela. Parce que la Cour des comptes dise qu'il y a un problème de mur d'investissement, c'est exact, mais qu'elle ne donne aucune solution pour le résoudre, sinon dire qu'il faudrait mieux prioriser et puis qu'il faudrait prévoir à l'avance, ça ne résout rien. Donc voilà, un rapport de la Cour des comptes qui n'est pas inutile, mais qui est un petit peu léger, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, à bientôt.